Nous parlons toujours de la PNL dans l'émission. Et si vous deveniez vous-même, on parle maintenant des principes de la PNL.
Alors, comme on l'a vu précédemment, notre carte du monde, notre perception n'est pas ce qu'on appelle le territoire. Ça veut dire qu'il y a toujours une différence entre ma réalité et la réalité. La réalité, c'est, on va dire, le territoire, et ma réalité, c'est ma carte du monde. C'est comme je me le représente. Donc, premier élément de la PNL, au fond, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle découvre sa carte du monde avec son monde sensoriel. Elle découvre sa carte du monde avec des éléments qui sont sensoriels du domaine du visuel, de l'auditif et du kinesthésique, hein, donc du ressenti. C'est comme ça que je perçois en fait les choses qui m'entourent, comme je les vois, je les entends et je les ressens. Et on admet que chaque personne a un canal de communication primaire ou prédominant, hein, qui est majoritairement pour les êtres humains plutôt visuel. Les gens sont majoritairement plus visuels qu'auditifs ou kinesthésiques. Donc les informations qu'ils captent, c'est par la vue. Les ressentis se font par là. Ensuite, une fois qu'on a compris que donc, l'information, je la captais au travers de mes canaux sensoriels, l'idée, c'est de montrer à la personne comment elle peut entrer en contact et en fait établir un rapport avec les autres. Et là, c'est intéressant parce que si le partenaire avec qui ou la personne avec qui j'ai un contact n'a déjà pas le même canal primaire que le mien, déjà, ça ne va peut-être pas être très évident de rentrer en contact avec elle, puisque si je suis visuel, par exemple, et que cette personne est auditive, je vais lui passer des informations liées à cette vision que j'ai des choses, et pour elle, ça ne va absolument pas résonner de cette manière, parce qu'elle est plutôt d'une logique auditive.
Donc, vous dites que la plupart des personnes sont visuelles, c'est ça ?
Oui, principalement visuelles. Et d'ailleurs, ça s'entend dans le langage. Quand on écoute les personnes parler, on peut déterminer relativement facilement un petit peu comment elles fonctionnent. Les personnes qui vous parlent, par exemple, si je vous parle, Cyrielle, je vous dis vous voyez, Cyrielle, vous voyez ce que je veux dire ? Si je vous dis « vous voyez ce que je veux dire », c'est quelque part que c'est du visuel. Si, par exemple, vous me dites quelque chose et je vous dis « j'entends ce que vous dites, Cyrielle, j'entends ».
D'accord.
J'entends, je suis auditif quelque part. Donc voilà, par plusieurs mots que vous allez utiliser, vous allez entre guillemets trahir, vous allez donner quelques informations sur votre canal de communication primaire. Sachant que vous en avez bien sûr d'autres, hein, il y aura un secondaire, un tertiaire, mais il y a le principal qui est utilisé.
D'accord.
Donc déjà, je rentre en communication avec quelqu'un, et là, ça y est, elle n'a pas le même canal que moi, donc il va falloir déjà trouver une stratégie pour pouvoir communiquer de manière à ce que nous entendions. Vous pouvez très bien d'ailleurs parler à quelqu'un, et quand la conversation est terminée, vous dites « j'ai l'impression qu'elle n'a absolument rien capté de ce que j'ai expliqué ». En fait, elle n'a rien capté, c'est pas parce que le sujet était compliqué, c'est parce que le canal de communication n'était pas calé sur le sien. Ça veut dire qu'on n'a pas... Vous savez, comme les anciens postes de radio, on avait un gros bouton, où on tournait, on avait la syntonisation. Hein, on arrivait à se caler sur quelque chose pour avoir la bonne écoute. Et bien là, c'est la même chose. Si on ne tourne pas ce gros bouton et qu'on n'arrive pas à se caler sur la communication de l'autre, on a beau lui expliquer tout ce qu'on veut, en fait, ça passe pas. C'est pas le bon canal, donc ça passe pas. Donc une fois qu'on a expliqué qu'il y avait des canaux de communication, on va dire que donc ma carte du monde et mes canaux sensoriels ne sont pas forcément la même carte du monde et pas les mêmes canaux sensoriels que l'autre personne. Donc c'est ce qui va être difficile. Après, que l'on soit capable d'entrer en relation avec l'autre, encore faut-il être capable d'exprimer ce que l'on veut de l'autre.
C'est compliqué aussi.
C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, la PNL en fait, permet de définir ses objectifs personnels et de mieux être, et être capable aussi de rentrer en communication avec les autres, c'est-à-dire de faire savoir à l'autre ce qu'on attend de lui.
Ah, si seulement c'était si simple.
C'est pour ça que la PNL existe. Hein. C'est parce que c'est pas si simple, justement. Hein. Et donc, la PNL en fait, permet aussi également de prévisualiser ce que l'on veut pour se mettre en condition d'obtenir ce que l'on veut. Hein, cette notion de prévisualisation est intéressante. C'est-à-dire que je vais effectivement me projeter dans une situation, je vais essayer d'émotionnellement ressentir cette situation avant de la vivre. C'est de la prévisualisation. Hein, c'est parce que j'aurai prévisualisé, et mis mon système sensoriel émotionnel en condition que je pourrai obtenir le résultat que je souhaite obtenir. C'est, la PNL, en fait, permet de passer d'un état présent à un état désiré, en préparant mon système émotionnel à ces changements, et donc mettre en œuvre toutes les ressources que je possède pour y arriver. Si on prend l'exemple du japonais, on pourrait dire ceci. Au fond, je pourrais vous proposer, par exemple, d'imaginer, de vous imaginer, parlant japonais. De parler en japonais avec des japonais, de pouvoir la littérature japonaise, et de vous y intéresser, et de comprendre que vous êtes en relation, que les gens vous sourient, qu'ils comprennent ce que vous dites. Et donc, quelque part, je vais créer cette image avec vous, de manière à vous projeter quelque part dans un résultat attendu, qui est le fait que vous connaissez le japonais, vous le parlez, et vous en tirez les bénéfices, c'est-à-dire la communication qui est facile, aisée, et donc de pouvoir s'intéresser à la culture japonaise, puisque vous connaissez le japonais.
Donc déjà, se mettre en... comme si on y est, qu'on avait
en
déjà réussi. Ouais, on a déjà réussi, voilà. On parle japonais,
oui.
Et ça donne envie, en fait, d'y arriver.
Absolument. Parce que je vais donc mettre en œuvre, au niveau émotif, tout ce qu'il faut pour être en condition pour l'apprentissage. C'est pour ça que quand je me dis, inversement, si je me dis le japonais c'est vraiment hyper compliqué, c'est impossible, bah, j'ouvris mon cahier de japonais, et effectivement ça va être complètement impossible. Donc, parce qu'en fait j'ai prévisualisé, j'ai ordonné quelque part à mon système, à mon cerveau, je lui ai dit écoute c'est vraiment très compliqué, tu n'y arriveras pas. Bon, mais rassurez-vous, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas.
Et j'ai un petit exemple personnel là-dessus. Je savais pas que je faisais ça. J'ai commencé le piano il y a 2 ans. Puis au début, je trouvais ça très difficile. Et puis finalement, le soir, je m'imaginais être pouvoir jouer les plus grands morceaux. J'étais là en mode, ouais, si un jour j'arrive à faire ça, je trouvais ça génial. Et du coup, ben, je fais encore du piano. J'allais abandonner. Et finalement, j'ai essayé d'imaginer. Comment ce serait si éventuellement j'avais vraiment bossé et que j'arrivais à être une des meilleures? Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça ou pas? Ouais.
Ça ressemble à ça. Alors, j'en profiterai juste pour vous donner un petit conseil. C'est que vous remplacez le mot « si » par le mot « quand ».
Ah.
Parce que « si » laisse une éventualité que ce ne sera pas possible, d'accord? Mais « quand », c'est toujours faisable. On ne sait pas vraiment quand, mais c'est faisable. C'est-à-dire, quand...
Ça rajoute quand, du pourcentage de réussite.
Absolument. Oui. Parce que quand je serai une virtuose du piano... À ce moment-là, je pourrais jouer du piano, je pourrais faire ces choses-là. Si je dis si, je laisse éventuellement une porte que ce ne soit pas possible.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
D'ailleurs, si vous voulez,
oui.
Vous voulez faire une petite pause musicale ou alors vous voulez que je passe à l'exemple?
Non, je suis à fond là. On, tout de suite, on passe à un petit exemple.
Super.
Oui.
Je vais vous donner par exemple un exemple qu'on peut faire avec la PNL. Imaginons que vous ayez un comportement qui vous pose un problème. Par exemple, le fait de se ronger les ongles. C'est un comportement qu'on peut avoir, des personnes ont ce problème, bon.
Oui, j'en fais partie, donc très bien.
Bon, bah, je l'ai vraiment fait par hasard. Hein. Donc, ronger les ongles. La technique du recadrage, qu'on appelle le recadrage, donc, permet de donner un sens différent ou opposé à la perception d'un fait donné. C'est-à-dire que je me ronge les ongles, c'est un comportement, et ce comportement est toujours sous-tendu par des émotions. Ça, c'est assez classique. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je veux recadrer quelqu'un qui fait ça? Donc, recadrer quelqu'un, c'est l'aider à voir les choses différemment. Je vais, par exemple, lui demander quel est son problème. Elle me dit, par exemple, je me ronge les ongles. Je vais lui demander de prendre conscience que ce comportement est inadéquat. Donc, je lui demander d'y penser, qu'elle y pense et qu'elle se demande un peu si vraiment ce comportement est bon. Bien sûr qu'il n'est pas bon. Cette personne se rend compte que ce n'est pas...
Je pense qu'on on est au courant.
On est au courant. D'accord. Et puis, on va demander, en fait, à la personne... à quoi, au fond, ce comportement vient-il répondre? Qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça vous permet de faire, de vous ronger les ongles?
Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt inconsciemment que je le fais. Après, c'est vrai qu'en période de stress, ça arrive plus souvent. Oui.
Alors, ça répond à une émotion, ça répond à quelque chose. Par exemple, on peut dire, bah oui, quand je me ronge les ongles, en fait, ça me calme. J'ai un stress, je me ronge les ongles, donc ça me calme. Donc, le comportement de ronger les ongles répond à une émotion qui est « ça me calme ». Ensuite, on va demander à la personne de se reconnecter à la dernière fois où elle a eu ce comportement. On va lui demander de se remettre dans cette situation la dernière fois où elle se rongeait les ongles. Et on va lui demander ensuite de chercher d'autres moyens de satisfaire cet objectif, c'est-à-dire donc de se calmer. On va lui demander de faire appel à une partie d'elle-même qu'on appelle la partie créatrice. Lui demander de chercher un autre moyen de faire en sorte que je puisse me calmer avec un autre comportement. Elle pourrait par exemple dire que ben, je peux respirer, je peux sourire, je peux écouter de la musique. Trouver d'autres comportements qui vont remplacer ça. Et ensuite, on va lui demander, par rapport à ces plusieurs comportements, par exemple écouter la musique, respirer et sourire, on va lui demander de choisir celui qui lui semble le plus adéquat. Et donc elle dit, ben, par exemple, moi je pense que la stratégie d'écouter la musique, ça me semble quand même plus pratique, plus facile, donc je vais faire ça. Et donc, on va lui demander simplement de se mettre en condition en écoutant de la musique et pour retrouver son calme. Et chaque fois qu'elle va écouter la musique, chaque fois elle va retrouver son calme, et petit à petit, ce comportement va venir remplacer l'autre qui était inadéquat. Hein? Donc, on sait que quand on a un comportement, il répond à une émotion, je change ça simplement par un autre comportement. Bon, là je l'ai fait évidemment très 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 simple, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça, mais voilà en tout cas les moyens de le faire.
On marque une petite pause, on va terminer ensuite l'émission, on va vous proposer la prochaine émission, on vous le dira donc juste après.